Vous êtes à l'écoute d'une émission chrétienne intitulée Chemin de vérité. Vous êtes invité à suivre chaque semaine avec nous des études bibliques de divers sujets d'importance spirituelle. Aujourd'hui, nous examinerons la question : la foi est-elle un don de Dieu ? Dans notre étude de la foi, nous avons considéré ses aspects fondamentaux. Avoir la foi, c'est être convaincu de quelque chose qu'on ne voit pas de ses yeux. C'est aussi agir avec confiance à cause de la vérité qu'on a acceptée. La foi chrétienne n'est pas irrationnelle, comme certains le pensent. Au contraire, elle est tout à fait raisonnable. Dieu fournit suffisamment de preuves pour nous amener à croire en lui et à croire à sa parole, la Bible. Mais quand même les preuves seraient incontestables, l'homme doit décider de croire. Nous ne voulons pas dire par là que la foi est subjective, et qu'on croit tout simplement parce que cela nous plaît. Mais nous reconnaissons que l'homme est libre. Il est capable de refuser de croire à ce qui est pourtant très évident, surtout si cette évidence le condamne ou l'appelle à changer de comportement. Aujourd'hui, nous voulons penser à l'idée que la foi serait un don de Dieu. Un jour, il y a plus de 25 ans, je me suis entretenu avec deux sœurs en Christ qui n'étaient pas très fidèles. Elle parlait d'une autre chrétienne, du nom de Judy, dont la foi était très forte. Au moment où on parlait, Judy luttait contre le cancer, qui finit d'ailleurs par l'emporter. Mais elle faisait face à ses souffrances et à sa mort probable avec du calme, confiante que Dieu pourrait la guérir, mais tout à fait prête à accepter la situation si Dieu ne choisissait pas la guérir. Elle comptait sur son Sauveur et savait que la vie éternelle l'attendait. Ses deux autres sœurs admiraient la foi de Judy, mais se lamentaient en disant que Dieu ne leur avait pas donné une foi comme la sienne. Elles estimaient que tout dépendait de Dieu. S'il te donne la foi, tu l'auras. S'il ne te la donne pas, ce n'est pas de ta faute. Depuis ce jour, j'ai eu à parler avec d'autres personnes qui m'ont dit qu'elles espéraient se convertir un jour, mais que Dieu ne les avait pas encore appelées. Ce n'était pas encore leur tour. Ces propos ont généralement été offerts par des gens qui n'étaient pas très religieux. Mais en fait, cette façon de penser s'accorde très bien avec la théologie du célèbre réformateur Jean Calvin. Ce dernier croyait que Dieu avait choisi d'avance les individus qu'il voulait sauver de la condamnation éternelle. Il les avait élus ou prédestinés à la vie. Ces personnes seraient les objets de sa grâce irrésistible. Croyant que tous les hommes sont totalement dépravés, incapables de bien penser ou de bien faire de quelque manière que ce soit, Calvin écrivit « Dieu ordonne que le Saint-Esprit touche le cœur de tous ceux qu'il a élus à la vie éternelle. L'appel intérieur de l'Esprit résulte toujours dans la conversion. Cet appel n'est adressé qu'aux élus. L'Esprit ne dépend ni de leur aide ni de leur coopération pour le succès de son œuvre. » L'Église réformée, connue en France et dans plusieurs autres pays simplement comme l'Église protestante, continue d'enseigner la même sorte d'idées. On peut lire dans son catéchisme « Dieu nous donne notre espérance en nous parlant directement, en sorte que ce n'est pas d'un tiers que nous tenons notre foi. Notre foi est le miracle du Saint-Esprit au-dedans de nous. Il donne l'unique assurance, sans intermédiaire, avec ou contre nos raisonnements, nos inclinations ou nos désirs. Il ne faut pas croire que Jésus s'est offert, mais qu'il nous reste à l'accepter, à le croire, à nous donner à lui. Dieu ne nous abandonne pas, il nous place en face de son Fils, mais ne nous laisse pas conclure librement ce que nous allons en penser. S'il nous laissait libres à ce moment-là, il nous perdrait sans aucun doute, car de nous-mêmes, nous sommes fermés à la grâce et ennemis de Dieu. Dieu décide d'en finir avec nos raisonnements et nos hésitations. C'est Dieu lui-même qui prend pitié de nous, nous visite et croit en Jésus-Christ à notre place, puisque nous n'y croyons pas nous-mêmes. Ce langage est très fort, n'est-ce pas? Je ne connais pas beaucoup de gens qui croient tout à fait de cette façon concernant le salut. Néanmoins, on rencontre souvent l'idée que la foi est un don de Dieu, qu'elle est mystérieuse, que l'Esprit de Dieu doit toucher le cœur d'un homme de façon directe avant que les paroles de la Bible ne puissent avoir un effet sur lui. Il est vrai que certains passages bibliques semblent au premier abord soutenir une telle manière de penser. Mais quand on les examine de plus près, ou quand on les complète avec d'autres passages, on voit que l'on a mal compris. Éphésiens 2, versets 8 et 9 est un tel passage. « C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. » Certaines personnes lisent ou écoutent ces versets et tirent la conclusion que Paul dit dans ce passage que la foi ne vient pas de vous, car c'est le don de Dieu. Il faut cependant tenir compte de la grammaire de ces phrases. Paul dit « C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous. » S'il avait voulu dire que la foi ne venait pas de nous, il aurait écrit « Vous êtes sauvés par le moyen de la foi, et elle ne vient pas de vous. » Le mot « foi » étant au féminin, que ce soit en français ou en grec, le pronom qui s'y réfère doit être au féminin aussi. Nous trouvons plutôt dans la phrase un pronom neutre, « cela ». Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Le don de Dieu en question, la chose qui ne vient pas de nous, n'est pas la foi, mais le fait que Dieu nous sauve par la grâce. Nous étions incapables d'effacer les péchés qui nous condamnaient. Mais Dieu est intervenu pour nous sauver. Notre salut n'est pas dû à nos mérites ou à notre justice. C'est un don de Dieu. Réfléchissons un peu. La Bible dit clairement que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Selon 1 Timothée chapitre 2, versets 3 et 4, Dieu, notre Sauveur, veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Selon 2 Pierre 3, verset 9, « Dieu use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. » Même dans l'Ancien Testament, Dieu avait dit par le prophète Ézéchiel, « Je ne désire pas la mort de celui qui meurt, dit le Seigneur, l'Éternel. Convertissez-vous donc et vivez. » Ézéchiel 18, verset 32. Si Dieu veut sincèrement que tous les hommes soient sauvés, si la foi est une condition pour ce salut, et si personne ne peut avoir la foi sans que Dieu lui-même ne l'accorde, n'est-il pas évident que Dieu donnerait la foi à tous les hommes? Si tous n'ont pas la foi, ce serait la faute de Dieu, n'est-ce pas? Encore, si nous voyons que certains ont la foi, mais que d'autres ne croient pas parce que Dieu ne leur aurait pas donné la foi, ce serait une preuve que Dieu montre du favoritisme. Pourtant, la Bible dit à plusieurs reprises, « Devant Dieu, il n'y a point d'acception de personne. » Romains 2, verset 11. Enfin, Jésus dit en Marc 16, verset 16, « Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. » Si une personne ne croit pas parce que Dieu ne lui a pas donné la foi, comment Dieu pourrait-il condamner cette personne pour n'avoir pas cru? Ne serait-il pas injuste s'il faisait ainsi? En fait, la foi que Dieu nous demande dépend de deux choses. Il faut entendre la parole de Dieu et il faut la recevoir dans un cœur bon et honnête. Selon Romains 10, verset 17, la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Lorsque Jésus priait pour ses apôtres, en Jean 17, verset 20, il dit « Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole. » Nous croyons en Jésus grâce à la parole ou le témoignage des apôtres, contenu dans le Nouveau Testament. L'apôtre Jean dit que tel était son but en écrivant son évangile. Il dit en Jean 20, verset 31, « Ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. » Voilà pourquoi l'apôtre Paul demande en Romains 10, verset 14, comment donc croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Cette parole n'a pas le même effet chez tous les auditeurs. Jésus dit une parabole dans laquelle il compare la parole de Dieu à une semence semée par un cultivateur. Il compare les cœurs des auditeurs à différentes sortes de sols. Quand le semeur disperse la semence, une partie tombe sur le chemin où il marche, une partie sur de la pierre recouverte d'une fine couche de sol, une partie au milieu des épines, et une partie dans une bonne terre où elle pousse et finit par porter du fruit. Ces différentes sortes de sols correspondent à différentes sortes de personnes. Celles qui ne s'y intéressent pas et oublient la parole aussitôt, celles qui l'acceptent sans mesurer l'engagement demandé et qui ne persévèrent pas, et celles qui permettent au plaisir et aux soucis de cette vie d'étouffer le message de Dieu. Et puis, dit Jésus, il y a ceux qui, ayant entendu la parole avec un cœur honnête et bon, la retiennent et portent du fruit avec persévérance. Luc 8, verset 15. Comme nous l'avons dit, la foi dépend de deux choses. Il faut entendre la parole de Dieu et il faut la recevoir dans un cœur honnête et bon. Voilà pourquoi dans la Bible, on ne demande pas aux non-croyants « Priez Dieu afin d'avoir la foi pour que vous soyez sauvés ». On dit plutôt, comme en Hébreux 3, verset 15, « Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. »
C'est toi.